Bonjour, chers auditeurs, le studio de Châteaudun. Nous recevons Jocelyne et Anthony de la librairie du coin.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Dans notre émission Tourne-Page, ils vont nous présenter, Jocelyne, Cerf-Volant.
Hein? Le Cerf-Volant, de Laetitia Colombani, aux éditions Grasset. Donc, c'est le troisième roman. Après son très beau La Tresse, qui a été un immense succès, un succès mondial, 40 traductions, 23 prix littéraires.
C'était grandiose. C'était une très grande référence.
Voilà. Et là, elle nous emmène, donc Laetitia Colombani nous emmène en Inde, à la rencontre de Léna. Léna est une jeune femme qui a toujours su qu'elle serait institutrice. Dès son plus jeune âge, elle disait « moi, je serai maîtresse ». Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est devenue enseignante en France. Mais à la suite d'un drame personnel qui l'a littéralement brisée, mise KO, elle part en voyage en Inde. Elle a le sentiment qu'elle a besoin de dépaysement, de soleil, de mer, enfin voilà, elle a besoin de changer d'air. C'est un projet qu'elle avait avec son mari François. On saura plus tard ce qui est arrivé à François, mais le drame est lié à François. Elle part dans le golfe du Bengale.
Vraiment un dépaysement total, là, pour le coup.
Dépaysement total.
Ah ouais,
voilà. Quand elle est sur place, elle est toujours aussi mal, parce que quand on va mal, c'est pas en changeant de lieu géographique qu'on va mieux, forcément. Donc, elle va toujours aussi mal, elle est très fatiguée, elle a plus goût à rien. Donc, elle ne joue pas du tout les touristes, hein. Elle va pas visiter les plus beaux lieux. La seule chose qu'elle arrive à faire, chaque matin, très tôt, elle va sur la plage, elle regarde la mer et elle se baigne. C'est la seule chose qu'elle arrive à faire. Seulement, voilà, un matin, elle est tellement épuisée, elle manque de se noyer. Peut-être qu'elle se laisse un peu aller aussi. Enfin bref, elle manque de se noyer. Et la dernière chose qu'elle voit, avant de perdre connaissance, c'est un cerf-volant dans le ciel. Elle voit le cerf-volant dans le ciel et elle voit que ce cerf-volant est tenu par une petite fille. Et c'est cette petite fille qui va la sauver. En effet, elle a vu Léna sur la plage et elle a bien vu qu'elle était en difficulté. Donc, elle va faire appel à un groupe de filles sur la plage. Et tout ce petit groupe va aller récupérer Léna et va la sortir de l'eau, etc. Donc, en sortant de l'hôpital, elle veut remercier ses sauveuses, bien sûr. Et elle va... Donc, elle retourne sur la plage. Elle va rencontrer la petite fille. Cette petite fille ne parle pas. Donc, visiblement, elle a vécu, elle aussi, un drame personnel parce qu'elle n'arrive plus à parler. Elle travaille dans le restaurant de son oncle et de sa tante. Donc, comme beaucoup d'enfants en Inde, elle travaille beaucoup. Hein, elle n'est pas scolarisée. Elle a perdu ses parents. Et elle a été recueillie par le couple de restaurateurs qui pour la nourrir et pour la loger, lui demande de travailler tout au long de la journée. Donc, elle sert les gens qui viennent déjeuner ou dîner. Elle fait la vaisselle, bref. Elle a quelques moments de libre dans la journée. Ces quelques moments de libre, elle va les passer sur la plage avec son cerf-volant. Voilà.
Elle travaille vraiment comme une adulte, en fait.
Je n'ai pas fait le détail, mais Laetitia Colombani explique bien clairement. Voilà, les enfants sont... C'est la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de travailler. On ne va pas à l'école. Il y a plus forte raison quand on est une fille. Voilà. Et donc Léna va découvrir cette petite fille et va aussi découvrir le groupe de filles qui était sur la plage et qui a été alerté par la petite. Et donc ce groupe de filles, elles font partie de la Red Brigade. Alors je dois sûrement mal le prononcer, mais peu importe. C'est un groupe de filles qui pratique le self-défense et dont la mission est d'assurer la sécurité des femmes. Donc
déjà une grande dans ce milieu-là.
Oui. Donc, la chef, c'est une jeune femme qui s'appelle Preti. Donc, voilà, Léna va rencontrer ces deux personnages. Elle va aussi découvrir la réalité de l'Inde. celle qui est justement en dehors des sites touristiques, hein, c'est-à-dire
la commune du déroulement.
La réalité.
Qu'on essaie un peu de cacher aux touristes.
Qu'on cache complètement aux touristes. Ouais. Les touristes, on les emmène voir les plus beaux sites, les monuments, les choses comme ça. Mais ça, on le montre pas. Et la réalité, c'est les castes. Chacun est classé dans des castes, et notamment c'est celle que l'on va découvrir là, les intouchables. Donc là, c'est la dernière, c'est la pire de toutes, hein, les intouchables.
C'est la plus basse classe.
C'est la plus basse classe. Ils n'ont droit à rien, ils sont jugés impurs, hein. Ils sont complètement asservis par les castes supérieures. Hein. Et d'ailleurs, rien que leur nom, intouchable, on ne touche pas, hein, sinon on pourrait attraper des maladies, on ne touche pas. Enfin, intouchable jusqu'à un certain point, parce que ça n'empêche pas certains hommes de violer les femmes, de violer les très jeunes femmes d'ailleurs, d'où la mise en place de cette brigade qui est là pour.
De défense.
Pour
essayer de les aider, de
voilà,
les défendre,
donc intouchable, mais jusqu'à un certain point quand même. Hein, donc,
quand ça les arrange.
Voilà. Ouais. Et puis elle découvre aussi la réalité concernant les enfants. Et à plus forte raison, les petites filles qui travaillent très dur, qui ne sont pas scolarisées et qui, pour avoir leur bol de riz, doivent travailler très dur.
Pour survivre,
complètement. Ouais. Hein, voilà.
Puis elle, qui était institutrice en France, ça doit lui faire un choc.
Ça tournicote, c'est ça.
Oui.
Alors, donc, Léna, elle va prendre conscience de tout ça et elle va se battre pour que la petite fille vienne 1 à 2 heures par jour après son travail sur la plage et elle va essayer de lui apprendre, enfin, elle va lui apprendre à lire parce qu'elle sent bien que cette gamine a quand même quelque chose. Elle n'arrive pas à parler, mais elle est intelligente, Donc, elle va parlementer avec l'oncle et la tante et ils vont la lâcher 2 heures par jour et elle va lui apprendre à lire. Et elle va également apprendre à Préti, donc la jeune femme musclée, là.
De la défense.
Voilà, à écrire l'anglais. Parce qu'elle, elle parle l'anglais. En fait, elles échangent en anglais. Hein. Elle parle l'anglais, mais elle ne sait pas l'écrire. Donc, ça la pénalise dans ses documents administratifs, etc.
Oui.
Donc, voilà. Donc, elle va reprendre un petit peu goût à la vie en aidant la petite et la grande comme elle peut. Donc, voilà. Alors, elle va vivre de cette manière-là pendant plusieurs mois. En fait, elle va vivre comme ça jusqu'à la fin de son visa. Seulement, elle a un visa qui expire, donc il faut qu'elle rentre en France. Et là, ça va être compliqué pour ces trois personnages féminins, parce que des liens très forts se sont tissés entre elles. La petite fille, c'est la première fois qu'on s'intéresse à elle, donc elle a perdu sa maman, donc elle est très attachée à Léna. La grande, c'est pareil, c'est la première fois qu'on la respecte. Donc voilà, ça va être un déchirement pour Léna de rentrer et puis pour les deux autres personnages aussi.
De rester sans elle.
Donc, au moment du départ, elle prend l'engagement de revenir pour y construire une école. Elle se dit qu'elle peut pas en rester là, que son destin doit être de se mettre au service des petites filles, des enfants. Et donc elle part, mais avec le projet de revenir et de mettre en place cette école. Alors après, je vais pas vous parler du parcours du combattant que ça va être, parce que en termes administratifs, obtenir les autorisations, en termes de trouver des locaux, les mettre à peu près en état, parce qu'évidemment, non seulement il n'y a pas d'argent sur place à consacrer à ce projet, mais en plus, la grosse difficulté, c'est de pouvoir récupérer des enfants. Parce que tous les enfants travaillent ou dans les champs. Oui. Donc il va falloir que. Donc Léna, elle puise de l'énergie et puis elle trouve une raison de vivre en mettant ce projet en place. Donc elle fait lever des fonds. En France, elle a quand même des relations un petit peu. Donc elle fait lever des fonds pour pouvoir mettre en place un local, pour pouvoir récupérer du matériel, des stylos, des choses comme ça. Enfin bref, c'est un parcours du combattant, mais c'est une très très belle histoire. Et c'est pour ceux qui ont lu La Tresse, on peut imaginer ce que peut faire Laetitia.
Voilà. La Tresse, que c'était très prenant comme livre, ça ne m'étonne pas.
Là, c'est du même
auteur.
C'est du même auteur, c'est dans le même esprit. C'est vraiment un formidable roman plein d'humanité qui ne nous laisse pas indifférents, quoi, qui nous touche de toute façon. Donc voilà, je le recommande vivement pour cet été.
Merci, voilà. Jocelyne. Nous faisons une petite pause médicale.
Thank you.
nous écoutons Anthony qui va nous présenter Dévisager.
Exactement, c'est ça, Dévisager, donc de Erin Stewart, qui est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, c'est un livre pas très drôle, hein, on n'est pas sur du léger. Donc, on va suivre l'histoire de Ava, qui est une adolescente de 16 ans. Elle vit aux États-Unis dans une petite ville au Texas. Et sa particularité, en fait, c'est qu'elle a survécu à un incendie. Lorsqu'elle avait 15 ans, elle dormait chez elle avec son père, sa mère et sa cousine. Et suite à un câble défectueux, un incendie s'est éclairé dans la nuit. Donc, elle a pu survivre en sautant par la fenêtre, mais malheureusement, ses proches, les trois autres personnes, sont décédées. Donc voilà, déjà, rien que ça, c'est pas joyeux. Et en plus, donc, Ava, n'est pas sortie indemne. Elle a été brûlée au second et troisième degré sur plusieurs parties du corps. Donc, elle a eu le visage totalement défiguré. Elle a perdu sa main gauche, elle a perdu des endroits de sa peau, de son corps. Donc oui, c'est pas joyeux. Hein.
Non.
Mais j'expliquerai que il y a pas que du lourd, que du triste. Et donc voilà. Là, Ava, donc qui en fait après avoir été dans le coma pendant plusieurs mois et avoir subi plusieurs greffes de peau pour essayer un peu de reconstruire son corps, en fait, tout simplement, ouais. Puisque là, elle n'avait presque plus rien. Elle a pu aussi récupérer une main. Alors en fait, ils lui ont greffé un orteil et avec un doigt qui lui restait pour qu'elle ait une pince, pour qu'elle puisse quand même tenir des choses sans avoir une main comme nous, on peut l'avoir avec 5 doigts. Voilà, malgré tout, et puis avec sa main droite. Et aussi, elle a pu en fait être accompagnée par une psychologue pour gérer tout ce qui était vraiment psychologique, parce qu'elle est totalement traumatisée, elle est dans le déni.
Elle n'a plus d'espérance de quoi que ce soit.
Elle a un peu la culpabilité de la survivante, parce qu'elle se dit, pourquoi moi j'ai survécu alors que mes parents et ma cousine sont décédés? Et puis, comment est-ce que je vais faire pour vivre avec le corps que j'ai maintenant? Comment je vais faire? En fait, elle est totalement bloquée sur ça. Donc elle est suivie par une psychologue et un groupe de soutien où il y a d'autres enfants, en fait, d'autres ados qui ont été brûlés ou autres, qui ont des cicatrices. Ils peuvent parler, échanger ensemble. Donc voilà, ça c'est un peu je plante le décor, c'est un peu le début. Et donc l'histoire va commencer lorsque Ava va faire sa rentrée au lycée parce qu'elle va reprendre une scolarité. Ah oui, j'ai oublié de préciser donc qu'elle avait été adoptée par son oncle et sa tante, donc les parents de Sarah, la cousine qui est décédée. Et du coup, voilà, elle s'adapte à une nouvelle maison, une nouvelle famille, entre guillemets, et ça aussi...
Nouveau lieu de résidence, nouveau...
Bah, c'est ça, puis ça aussi, c'est compliqué pour elle, parce qu'elle se dit, je prends la place de ma cousine, mon oncle et ma tante, ils sont détruits, et puis moi, je viens comme une fleur prendre sa place, quelle est ma légitimité? Donc ça aussi, elle a du mal à gérer. Oui, donc voilà, donc je disais, en fait, donc sa tante la pousse à retourner au lycée, alors qu'elle n'en a pas du tout envie. Mais elle se dit, bon, voilà, on va faire un test, 15 jours, je vais voir comment ça se passe. Donc forcément, le premier jour est très dur, puisque tout le monde la dévisage, tout le monde la regarde, tout le monde se dit, mais c'est qui celle-là, quelle horreur. Enfin voilà, elle a des sobriquets, elle a des noms un peu compliqués. Mais heureusement, elle va faire la rencontre de deux ados, donc une qui s'appelle Piper, qui a le même âge que Ava, elle a 16 ans, et elle aussi est mise de côté car elle est en fauteuil roulant. Donc tout de suite, un lien va se créer entre elles parce que
ils ont les mêmes épreuves ou les mêmes difficultés. Exactement. À surmonter.
Exactement. L'une, Piper, sait très bien ce que c'est d'être à la place d'Ava, dans le sens d'être exclue de par son handicap, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment un très beau roman sur l'acceptation de soi et l'entraide. Donc voilà, Dévisager d'Erin Stewart.
En jeunesse, ça.
Oui, roman jeunesse.
Roman jeunesse,
mais pas que.
Merci beaucoup. Oui, ça nous donne l'envie de lire, de découvrir tous ces choses. Allez, merci à Anthony et à Jocelyne nous apporter leur savoir et nous faire découvrir.
Bel été à tous.
Merci beaucoup, bel été à tous.
Merci, au revoir. Je vais te pencher, hein.
Ah oui, on est trop bavard.
Non, je vous connaissais bien, vous.